Alors, on commence une nouvelle année par la grâce de Dieu. Et une de mes résolutions presque chaque année, c'est que Dieu me donne la grâce de le connaître davantage. Et quand on y réfléchit, de connaître Dieu davantage, c'est vraiment quelque chose qui c'est unique à ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et quand on regarde aux différentes religions qui existent, Dieu est très distant. Quand on regarde aux premières religions polythéistes du temps de Jésus, des Grecs, des temps des Juifs, les dieux étaient capricieux, les dieux étaient des dieux qui utilisaient leur puissance pour manipuler les gens et qui ne se souciaient pas des peuples. Il y a quelques mois, j'étais en Inde. Dans l'hindouisme, il y a plus de 300 millions de dieux qui sont répertoriés, ils disent. Et alors, pour connaître Dieu, comment on fait? Ils sont tous unis dans ce qu'ils appellent le Brahman, qui est une entité qui n'est pas personnelle. Comment on fait pour connaître Dieu? On regarde dans l'islam, Al-Ghazali, un des plus grands théologiens de cette religion, des siècles passés, a écrit « La conséquence de la connaissance de ceux qui cherchent Dieu, c'est leur incapacité de le connaître. Et leur connaissance est en réalité qu'ils ne peuvent pas le connaître et qu'il est absolument impossible pour eux de le connaître. » Un autre théologien plus récent a écrit « Allah ne se révèle pas à qui que ce soit, Dieu révèle seulement sa volonté. » On continue, que ce soit dans l'église catholique romaine, pour avoir accès à Dieu, il faut des médiateurs, il faut les saints, il faut Marie, il faut les prêtres, il faut le pape. Et puis si on ne remplit pas tous les sacrements, si on ne fait pas toutes les bonnes œuvres, on peut perdre la faveur de Dieu à n'importe quel moment. Et même la religion juive, dans le judaïsme, Dieu est très distant. Le Dieu du judaïsme est un Dieu qui est transcendantal, qui est distant, qui est pas personnel. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils n'utilisent pas son nom. Souvent, on dit ils veulent pas blasphémer, ils disent pas le nom de Yahweh. Mais lorsqu'on regarde, j'ai fait quelques études, notamment sur la gloire de Dieu, j'ai écrit une thèse. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot pour la gloire de Dieu, c'est un mot qui veut dire poids. Un mot qui vient de la réputation, du caractère de Dieu. Mais dans la religion juive, ça devient la Shekinah, une lumière qui est distante, qui est ésotérique, et qui les rapproche, qui ne les rapproche pas de Dieu, qui les éloigne de Dieu. Il y a un de leurs théologiens qui a écrit concernant le paradis, « Les élus s'assoient avec leur couronne sur leur tête et sont rafraîchis par la radiance de la Shekinah. » Est-ce que c'est la manière dont vous voyez le paradis? De rentrer dans une transe passive au travers d'une lumière divine qui vous éblouit. Ouais mec, je suis allé au paradis, puis c'était comme un film en 4 dimensions, et j'ai même fait une bronzette. Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez le paradis? Non, non, mais malheureusement, pour toutes les religions, si ce n'est pas au travers de Jésus-Christ, si ce n'est pas au travers du Dieu personnel que nous avons, Dieu est distant. Et même la vision du paradis, d'une vie éternelle avec lui, c'est une vision distante. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on se tourne dans l'Ancien Testament, dans un passage où Dieu révèle son prénom. Alors, quel est le prénom de Dieu? C'est le prénom que nous avons traduit dans nos Bibles par l'Éternel. En hébreu, Yahweh. Donc, je vais prononcer les deux mots, Yahweh, Éternel. On va utiliser les deux. Et ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est trois aspects du nom de l'Éternel qui nous montrent que c'est un Dieu qui est proche. Trois aspects que nous voyons du nom de Dieu, du prénom de Dieu qui nous révèle à quel point il est proche de nous. J'ai à prier une fois de plus, et puis nous dirons dans nos Bibles, en Exode chapitre 33 et chapitre 34. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que tu nous as donné ta parole. Que tu n'es pas un Dieu qui se cache, mais un Dieu qui se révèle. Tu n'es pas un Dieu qui désire être mystérieux et lointain, mais un Dieu qui désire connaître nos besoins, qui désire se révéler pour nous bénir, qui désire révéler sa bonté à chaque instant et un amour croissant. Merci pour les promesses que nous avons chantées dans ta parole, que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Quand tu te révèles, Tu révèles ce qui est merveilleux. Et on te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons regarder en Exode chapitre 33, à partir du verset 12, un de mes passages préférés où Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Mais pour se mettre un peu dans le contexte, on se replace un peu dans les sandales de Moïse. Et il y a de nombreuses années, 3500 ans. Et avant qu'on arrive au chapitre 33 d'Exode, qu'est-ce qui se passe? Moïse grandit en Égypte. Et puis, à un moment donné, il rejette les richesses de l'Égypte pour un appel. Quel est son appel? On le voit en acte 7, quand Étienne se fait lapider, il dit que Moïse tua l'Égyptien parce qu'il savait que Dieu avait donné la délivrance d'Israël au travers de lui. Alors imaginez un petit peu Moïse. Il tue l'Égyptien pour délivrer Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il est chassé. Pendant 40 ans, pendant 15 000 jours, dans le désert, en tant que berger. Imaginez les sentiments qu'il aurait pu avoir de son échec. Pendant 40 ans, de savoir que la manière dont il avait essayé de sauver son peuple avait échoué. 40 ans de plus de souffrance pour Israël. Il est dans le désert et puis Dieu se révèle à lui. Et lui donne le nom de Yahvé. Le nom qui signifie « Je suis qui je suis ». Non seulement le Dieu qui est éternel, comme nous l'avons dans notre traduction, mais un Dieu qui est présent. Un Dieu qui est présent pour les besoins de son peuple. Un Dieu qui est présent à chaque instant. Et il se révèle comme un Dieu qui prend souci d'Israël pour les délivrer. Il envoie Moïse avec des grands miracles, des signes, des prodiges. Et le peuple d'Israël est délivré. Non seulement Israël est délivré, mais Dieu fait cette promesse à son peuple. Je ferai de vous, oui, mon peuple, et j'habiterai au milieu de vous. Et il donne à Moïse les plans du tabernacle pour que le Dieu vivant habite au milieu d'Israël. Vous imaginez si Dieu disait à vos anciens, je vais mettre ma tente juste là à côté, et chaque dimanche que vous venez ici, ben, je serai là. Ça fait une différence, n'est-ce pas? Et Moïse qui avait attendu pendant 40 ans la présence de Dieu, sa délivrance, Dieu lui fait des promesses qui dépassent son entendement. Dieu voulait habiter avec son peuple. Et puis on arrive au chapitre 32, donc juste avant le chapitre 33, et qu'est-ce qui se passe? Chapitre 32. Israël fait un veau d'or. L'alliance que Dieu avait faite avec Israël, qu'Israël soit son peuple, qu'il adore à lui seul, ben Israël la brise. Et tout d'un coup, cette relation avec Dieu est brisée. Israël s'aliène de Dieu. Et alors Dieu dit à Moïse, éloigne-toi de ce peuple. Ou sinon, voilà ce que je vais faire. Je vous ai promis le pays, je vous ai promis le miel et le lait, ben, je vais le donner. Mais je ne viens plus avec vous, je vous envoie un ange. Je vous envoie un ange, je vous donne les bénédictions, mais je ne viens plus avec vous. Et puis, on arrive à notre passage. En Exode, chapitre 33, nous allons commencer de lire au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire !» L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Dans ce premier passage que nous voyons, on voit que Yahvé, que l'Éternel, prend plaisir dans la révélation. L'Éternel prend plaisir à se faire connaître, à révéler qui il est. Et on le voit, c'est lui qui prend l'initiative de cette conversation qui commence au début du chapitre 33. À plus de 4000 reprises dans l'Ancien Testament, il y a des phrases telles que « Ainsi parle l'Éternel » ou « Dieu se révéla à ce prophète » ou « à ce prophète ». Et c'est un Dieu qui prend plaisir à se révéler. Et dans ce passage, on voit deux requêtes de Moïse pour la révélation de Dieu. Au verset 12, au verset 13, il lui dit « Montre-moi tes voies ». Et au verset 18, « Montre-moi ta gloire ». Alors dans la plupart des religions, le Dieu aurait probablement dit à Moïse, à son prophète, « Bah écoute, Moshé, t'as beau être mon prophète et tout, mais tu sais, moi j'ai besoin d'un mystérieux. J'ai besoin que les gens, quand ils pensent à moi, ça soit tellement mystérieux que ça les émerveille. Quand ils savent pas quoi penser, quand ils méditent, puis c'est le vide. » Qu'on voit dans beaucoup de religions d'ailleurs. Non, au contraire, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ? Bah, tu vois, si tu me voyais, bah tu mourrais. Mais je vais faire tout ce que je peux pour que tu puisses voir autant de ma personne que possible. Je vais me révéler de dos pour que tu puisses vivre. Je vais te mettre dans le creux, mais je vais révéler toute ma bonté. Et on voit le cœur de Dieu, le cœur de Yahvé, qui désire autant que possible, autant que l'homme peut porter, à révéler sa pleine gloire. Et la requête de Moïse, ce n'était pas une petite requête. Dieu, montre-moi ta gloire. Un peu comme s'il disait, Dieu, je veux voir le meilleur que tu as à me donner. Montre-moi ce que tu as de meilleur. Montre-moi qui tu es pleinement. Il voulait la bénédiction de Dieu. Il voulait la confirmation de Dieu. Il ne voulait pas un ange. Il ne voulait pas simplement un ange de Dieu. Il ne voulait pas simplement la bénédiction sans la source de la bénédiction. Et la raison pour laquelle sa requête était si zélée, c'est parce qu'il savait premièrement que son Dieu était connaissable. Et deuxièmement, que la connaissance de ce Dieu était le plus grand trésor qu'il pouvait avoir. Moïse avait renoncé à toutes les richesses d'Égypte pour Dieu. Et ce n'était pas les richesses d'Israël, du pays promis, qui lui feraient renoncer à cette relation personnelle avec Dieu. Et on entend sa requête. Yahvé éternel, je sais que je te connais, mais je sais qu'il y a encore plus à connaître de toi. Révèle-moi davantage qui tu es. Émerveille-moi par qui tu es, parce que je sais qu'il y a plus. Je sais qu'il y a plus. Et que fait Dieu? Que fait l'Éternel? Que fait Yahvé? Il se révèle à Moïse. Et plus tard dans ce passage, qui est un long dialogue entre les deux, il lui donne les 10 commandements, mais littéralement en hébreu, les 10 paroles. Dieu parle à Moïse. Et on voit en Exode 33, verset 11, que l'Éternel, que Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Un Dieu qui prend plaisir à se faire connaître. D'ailleurs, lorsque Moïse descend de la montagne et qu'il est rayonnant, pourquoi est-il rayonnant? Parce qu'il vit la lumière dans le nuage et qu'il entre en transe. Pourquoi est-il lumineux? On voit ça au chapitre 34, verset 29. Chapitre 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La raison pour laquelle Moïse pouvait refléter la gloire de Dieu était parce qu'il avait été exposé à la parole vivante. La gloire de Dieu, elle est dans la révélation de Dieu. Tout ce que Dieu fait est gloire. Et dans sa parole, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Dans la révélation qu'il nous a donnée au travers de sa Bible, de la Bible qu'il nous a donnée. Et j'aime beaucoup l'image qu'on voit dans ce passage parce que ça reflète un peu notre relation avec Dieu. Moïse revient de la montagne et qu'est-ce qu'il met sur son visage ? Un voile. Et c'est un peu la même manière que Dieu se révéla à Moïse. Il lui dit, oui, je me présente à toi, mais je mettrai un voile. Je te montrerai mon dos, je te mettrai dans le creux du rocher. Mais avec un voile, pensez-vous que les gens d'Israël ne pouvaient pas reconnaître Moïse ? Vous pensez qu'une fois que Moïse avait mis le voile, il devenait un inconnu ? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour savoir que c'était Moïse ? Il aurait suffi de l'observer ou simplement de lui parler. Et c'est pareil avec notre Dieu. C'est pareil avec notre Dieu. Il nous a donné sa parole. Bien sûr, au travers d'un voile, on ne peut pas le voir face à face. Mais Dieu nous a donné tellement pour le connaître. Et tellement pour être émerveillé. Alors, comme j'ai dit, nous allons regarder à trois différents points, trois différents aspects du nom de l'Éternel. Et chacun de ces aspects demande une certaine réponse, une certaine attitude du cœur, que l'on voit d'ailleurs dans l'exemple de Moïse. Et par rapport à la révélation de Dieu, ce qu'on voit dans le cœur de Moïse, c'est un cœur zélé. Un cœur qui désire voir la gloire de Dieu. Il savait qu'il y avait tellement plus à connaître de Dieu, qu'il s'approchait de Dieu avec un cœur zélé pour être émerveillé. C'est pas comme s'il se réveillait le matin en disant « Ouais Dieu, bah, je sais que t'es glorieux, hein. Je sais que t'es tout puissant, et puis bon, si tu fais quelque chose de spécial aujourd'hui, bon, pourquoi pas, ça serait sympa. » Non, au contraire, Dieu, je sais que tu es glorieux, je bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu me révèles ta gloire. Je bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu viennes avec moi. Je ferme pas ta parole jusqu'à ce que je sois béni. Ça, c'était la requête de Moïse. Éternel, je sais que tu es un Dieu qui prend plaisir à bénir ton peuple. Je ne bouge pas d'ici sans ta bénédiction, sans ta présence. Et bien sûr, c'est venu avec un certain coût. Moïse aurait pu dire à Dieu, bon d'accord, je prends ton ange, envoie-le, on va en payer promis, c'est parfait, j'avais toujours envie d'avoir une grande maison en Israël. Non, il dit, Dieu, viens, je veux que tu viennes toi. Et Dieu vint avec sa sainteté. Et sa sainteté, en conflit avec le péché d'Israël, fit que Moïse passa les 40 prochaines années dans le désert. Mais laissez-moi vous poser une question. Préfériez-vous être 40 ans dans un désert dans la présence de Dieu ou 40 ans dans le pays promis sans Dieu ? Et j'espère que chacun de nous préférerions de loin être avec Dieu, même dans un désert, sachant que quand on a Dieu, on a tout. Parce que Israël était dans le désert pendant 40 ans. On voit en Deutéronome 2, verset 7, il dit « Pendant 40 ans, vous avez été dans le désert et l'Éternel a été avec vous. Vous n'avez manqué de rien. » Mais pour voir Dieu, il faut un cœur zélé. Et j'espère que c'est la disposition de chacun de notre cœur. Alors premièrement, nous avons vu que l'Éternel, Yahvé, prend plaisir dans la révélation. C'est un Dieu qui veut être proche en se révélant. Et deuxièmement, Yahvé prend plaisir dans la rédemption. Et nous voyons ça lorsque nous continuons dans le passage, chapitre 34, versets 1 à 7. Et je vais m'appuyer davantage au verset 5 à 7. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est un Dieu qui se révèle, oui, mais qui se révèle à un peuple qui vient de pécher, qui ont commis un grand péché en faisant le veau d'or. Et chacun des attributs qu'il révèle est destiné à réconforter des pécheurs, à aider des pécheurs. Un Dieu qui prend plaisir dans la rédemption. On voit ça. Verset 5. « Yahvé descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel ou de Yahvé. Et Yahvé passa devant lui et s'écria, Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux. » Un mot qui parle de la bienveillance de Dieu envers ceux qui ont besoin de lui. Ceux qui sont dans le besoin, son zèle et sa promptitude à relever ceux qui ont des fardeaux. Un Dieu compatissant, un terme qui décrit son affection et sa grâce imméritée à des pécheurs, à son peuple choisi, lent à la colère, un autre attribut qui révèle un Dieu qui désire sauver et pardonner et laisser du temps aux gens pour se repentir avant d'être jugés, qui désire le salut, un Dieu riche en bonté et en fidélité. Ces deux termes ensemble, la bonté et la fidélité de Dieu, je les appelle les piliers du caractère de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui est tellement ouvert à bénir, et il le fait en tout temps dans sa fidélité. Et on voit chaque aspect du nom de Dieu qui est révélé. Et révélé pour qui? Pour des pécheurs, pour des gens dans le besoin. Dieu savait à qui il s'adressait. Lorsqu'il s'adresse à nous, il s'adresse à des pécheurs, n'est-ce pas? Chacun de nous. Mais le nom par lequel nous le connaissons est un Dieu qui sait qui nous sommes et par rapport à qui nous sommes, veut nous donner la victoire. Et on continue, qui conserve son amour, verset 7, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est un Dieu qui sauve, et qui sauve complètement. Alors oui, on aime le Dieu qui nous sauve de nos péchés, mais quelque part, il n'y aurait pas de paradis sans l'extinction des pécheurs. Il n'y aurait pas de paradis s'il y avait des pécheurs au ciel. Que serait le ciel? Il se passerait la même chose qui se passe ici. Et l'agneau de Dieu que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, qui paie les péchés du monde, qui paie pour les péchés du monde, est aussi l'agneau de Dieu qui est le seul digne d'ouvrir le rouleau qui est le jugement de Dieu, pour purifier la terre et pour nous donner une vie éternelle qui soit parfaite. Si nous voulons connaître Yahvé, si nous voulons connaître Yahvé, oui, il faut un cœur zélé, mais il faut aussi un cœur repentant. On ne peut pas connaître la grandeur de ce nom de Dieu qui est lent à la colère, qui est compatissant, qui est miséricordieux sans venir à lui en tant que pécheur. On ne peut pas connaître la grandeur de sa bonté sans venir à lui avec la grandeur de nos échecs et de nos péchés. On ne peut pas comprendre la grandeur de son salut sans comprendre la grandeur de notre perdition sans lui. La raison pour laquelle je pense que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises perdent leur vision de grandeur de Dieu et que nous échouons à venir avec lui, avec nos péchés, et de simplement lui dire « Dieu, mon orgueil, ma complaisance, mon amour pour le monde, mon manque de prière, je te le donne, change-moi. » Parce que je sais que tu es le Dieu qui est compatissant, le Dieu qui donne la victoire, le Dieu qui est miséricordieux. C'est qui il est? Si nous voulons connaître l'Éternel, nous devons venir à Dieu avec des cœurs repentants. Parce que notre Dieu est un sauveur. Et il sauve, oui, une fois pour toutes à la croix. Mais tous les jours, Dieu désire nous donner la victoire sur le péché. Et si seulement nous avions le courage de lui donner notre orgueil, de lui confesser notre égoïsme et de simplement s'attendre à lui pour nous changer. Et là, on apprend à le connaître. Parce que Dieu, sa spécialité, c'est de sauver les pécheurs. Il faut un cœur zélé pour connaître Dieu et un cœur repentant. On ne peut pas apprendre à connaître Dieu davantage sans avoir un cœur repentant. La manière dont Dieu se révèle est un Dieu qui donne la victoire aux pécheurs. Et ça, c'est notre espoir. Puis troisièmement, nous voyons que Dieu, oui, c'est un Dieu qui prend plaisir dans la révélation, un Dieu qui prend plaisir dans la rédemption, mais aussi un Dieu qui prend plaisir dans les relations personnelles. Et bien sûr, ces choses se suivent. Sont progressives. On ne peut pas avoir une relation personnelle avec Dieu sans la rédemption. Et on ne peut pas connaître le moyen de la rédemption sans la révélation. Mais une fois de plus, on pense au nom Yahvé, éternel. Lorsque Dieu révèle à Moïse, « Je suis », qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je suis, oui, mais je suis le Dieu d'Abraham. » Et Jésus nous explique dans le Nouveau Testament, « quand il répond aux Sadducéens qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, lorsque Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham », ça veut dire que Dieu est toujours le Dieu d'Abraham. Cette relation qui commença avec Abraham ne fut jamais rompue. Lorsque Dieu est dévoué et consacré à une relation, il n'y a rien qui l'arrête. Lorsque Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham », il l'est encore aujourd'hui. Il n'a jamais cessé d'être le Dieu qui était présent avec Abraham. Un Dieu relationnel. Et on voit ça au verset 8 à 10. Suite à la révélation de Dieu, de son pardon, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple aux coups raides. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Prends-nous pour ta possession. » Et l'Éternel, ou Yahvé, répondit « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de Yahvé. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Un mot qui peut être aussi traduit comme des choses qui suscitent la crainte ou la révérence ou l'émerveillement. Encore le contexte, c'est un peuple qui est déchu, qui s'est rebellé à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur dit ? Je veux vous pardonner, mais je veux aussi renouveler mon alliance. Je veux être dans une relation personnelle. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de pouvoir vous bénir avec un flot de bénédictions constant que d'être connecté au travers d'une relation. Et au travers d'une relation, je peux vous bénir. Au travers d'une relation personnelle, je peux vraiment me révéler à vous. Et c'était le cœur de Dieu. Et j'aime beaucoup cette petite phrase à la fin. Il ne dit pas « En face de vous, je ferai des choses merveilleuses, des choses terribles. » Mais il dit « Avec vous. » Avec vous. Dieu n'invitait pas Israël à s'asseoir sur les sièges de cinéma pour simplement le voir à l'œuvre. Il leur dit « Si vous êtes dans une relation personnelle avec moi, attendez-vous à être émerveillé. Si vous êtes dans une relation personnelle avec moi, attendez-vous à ce que les choses se passent différemment. Je vais faire des prodiges au travers de vous. Je vais vous utiliser pour être un témoignage pour le monde entier. Si vous êtes mon peuple, je vais vous émerveiller. Je vais faire de vous un prodige. » Et c'est ce que nous sommes en Christ. C'est ce qui nous sommes en Christ lorsque nous avons une relation avec Dieu. Comme nous voyons en Éphésiens 2:10, nous devenons son ouvrage afin que nous puissions marcher dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et le fait que Dieu soit tout glorieux et tout saint ne signifie pas qu'il est distant, au contraire. Bien sûr, la gloire lui appartient, mais il veut nous la partager. Il veut que nous la reflétons au travers d'une relation personnelle et profonde avec lui. Et encore une fois, ça demande une certaine disposition du cœur. Pour connaître la révélation de Dieu, il faut être zélé. Pour connaître la pleine rédemption de Dieu, il faut un cœur repentant. Et pour connaître Dieu d'une manière personnelle, il faut un cœur d'adorateur. Il faut un cœur d'adorateur. La première chose que Moïse fait, suite à la révélation de Dieu et à son pardon, il se met à genoux et adore Dieu. Et lorsqu'on regarde au reste du chapitre 34, toute la révélation que Dieu donne à Moïse, c'est une révélation où il redéfinit tout le système religieux d'Israël, tout le calendrier, pour avoir des fêtes, des festivités qui soient centrées sur l'adoration de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il leur dit, si je suis parmi vous, je vais vous bénir tous les jours, et alors je vais vous donner des opportunités pour répondre à mes bénédictions au travers de l'adoration. Et le système d'Israël était tellement ancré dans une adoration constante avec l'Éternel. Pourquoi ? Parce que Dieu avait choisi de les bénir tous les jours. Et l'adoration d'Israël n'était que le reflet de la consécration de Dieu à leur égard. Et la vérité est que Dieu est beaucoup plus dévoué et beaucoup plus consacré à nous que nous ne le serons jamais à lui. Et le fait que l'adoration dans la Bible, ce soit quelque chose de tellement complet, qui demande tellement de nous, c'est simplement le reflet de la consécration de Dieu à notre égard pour nous bénir. Dieu, chaque jour, bénit ses enfants. Prend des décisions pour nous bénir. Fait que chaque chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Et notre adoration, notre soumission, notre consécration n'est que le reflet, que la réponse de ce qu'il est déjà en train de faire. Et c'est comme ça qu'on est dans une relation personnelle. Dieu nous bénit et on lui répond par l'adoration. Il y a une chose que nous n'avons pas mentionnée dans ce passage, bien sûr, c'est un passage très riche. Comme je l'ai dit, j'ai écrit ma thèse en partie avec ce passage sur la gloire de Dieu. Il y a une chose qui m'émerveille sur ce passage, et c'est la notion du nuage. On voit dans l'Ancien Testament le nuage à plusieurs reprises avec la gloire de Dieu. Mais qui c'est qui revient dans le nuage? Qui c'est qui revient dans la nuée? Qui c'est? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et lorsque nous voyons l'Ancien Testament, toutes les révélations de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un esprit, on ne le voit pas. En Jean, il est écrit que personne n'a jamais vu le Père, sauf le Fils. Donc, qui c'est la révélation de Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament? C'est Jésus-Christ. On voit ça en 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Jésus-Christ était avec Israël. Et lorsqu'on regarde au nom de Yahvé, un Dieu qui prend plaisir dans la révélation, quelle est la plus grande manifestation de la révélation de Dieu? Mais Jésus-Christ, qui est venu en chair pour se faire connaître. Parce que Dieu prend plaisir dans la révélation. Yahvé prend plaisir dans la rédemption. Jésus-Christ, lorsqu'il vint sur la terre, paya le péché, le prix du péché, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Yahvé, l'Éternel, prend plaisir dans des relations personnelles. Au travers de Jésus-Christ, nous avons un ami, un sauveur, un frère, un rédempteur, quelqu'un que nous pouvons connaître, nous rapprocher et apprendre à aimer de plus en plus jour après jour. Non, ma simple question par rapport à cette étude, est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Lorsqu'on regarde à notre vie, nos priorités, comment on vit jour après jour, est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Et si nous l'aimons vraiment, alors nous allons être zélés pour le connaître davantage au travers de sa parole. Nous allons être zélés pour se repentir et pour s'attendre à des grands changements dans nos vies par rapport à la puissance de Dieu. Et nous allons être zélés pour adorer Dieu de tout notre cœur. Et je vais conclure avec un verset du livre d'Osée, chapitre 6, verset 3. Il est écrit « Connaissons, cherchons à connaître Yahvé ou l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » C'est notre espérance. Oui, Dieu va revenir. Il va revenir pour bénir. Il va revenir pour être proche de nous. Parce que c'est le Dieu qu'il est. Pas un Dieu distant, mais un Dieu qui prend plaisir à être proche et à bénir. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, quelle joie de savoir que nous avons un Dieu qui désire être proche de nous. Un Dieu qui se révèle pas comme un Dieu qui veut nous manipuler, mais un Dieu qui désire nous voir épanouis sous sa bénédiction. Un Dieu qui désire nous utiliser pour refléter sa propre gloire. Nous te louons, Père Céleste, qui tu es et que tu as envoyé Jésus-Christ. Aide-nous, Père Céleste, par ta grâce à l'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.